en ce 12 décembre, c'est la fête d'une très grande sainte, une sainte étonnante. Ça va fasciner les femmes en particulier. C'est Sainte Jeanne de Chantal, qui est très connue, Sainte Jeanne Françoise de Chantal, n'est-ce pas? Une noble, au cœur simple, une mère de famille, 4 enfants, et qui fonde un ordre contemplatif, l'ordre de la Visitation, les Visitandines. Des Visitandines, il y en a au Québec. Mais oui, il y en a même à Ottawa. Il y en a d'abord à La Pocatière, dans le comté de Kamouraska. Il y en a aussi à Lévis. Il y a le monastère de la Visitation Sainte-Marie, là, à Lévis, 62 rue Saint-Georges. Et puis à Ottawa, c'est sur le chemin Richemont, le monastère encore de la Visitation Sainte-Marie. À La Pocatière, c'est sur la 4e avenue. Alors, au cours de vos voyages, vous pouvez visiter les Visitandines, qui sont réputées pour être des religieuses contemplatives joyeuses, encore une fois, comme les Clarisses de Valleyfield, dont il a été question avant-hier, et que je connais bien pour avoir fait un film sur les Clarisses de Valleyfield. Et j'aime beaucoup ces femmes qui sont très spéciales dans un sens, mais particulièrement joyeuses. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Je me souviens, quand j'avais fait ce film sur les Clarisses de Valleyfield, il y a plus de 25 ans, mon équipe de Radio-Canada n'était pas très contente de se rendre dans un monastère pendant plusieurs jours. On y entrait évidemment le matin pour en sortir dans l'après-midi, en fin d'après-midi. Et à la fin, ils avaient plutôt les larmes aux yeux, car, comme ils me disaient, nous n'avons jamais rencontré de femmes aussi heureuses dans le monde. En 1560, on a célébré un contrat de mariage, très curieux, selon nos conceptions. C'est un contrat de mariage qui est signé entre Françoise de Siona à François de Sales. Oui, François de Sales, mais c'est le père de Saint-François de Sales. Alors, la nouvelle mariée, la future mère de Saint-François de Sales, a à peine 8 ans. Et celui qui devient son époux a déjà atteint la quarantaine. Et c'est ainsi que se faisaient, à la fin de la Renaissance, les mariages de raison. Et celui-ci, heureusement, a été très heureux. Donc, la petite fille Françoise de Siona apportait en dot la seigneurie de Boisy, dont précisément son mari, François de Sales, père, va porter le titre et le nom, puis il va s'appeler maintenant Monsieur de Boisy. Elle lui apportait surtout, cette petite fille, une âme limpide, déjà, une volonté solidement trempée, dit le vieux texte. Elle avait une aptitude remarquable à tenir déjà une maison. Et tout cela va demander à coup sûr à se développer. Évidemment que les qualités étaient en germe dans cette petite fille. Et ne craignez rien, on l'a renvoyée chez elle pendant 5 ans pour jouer avec ses poupées puis pour s'amuser. Elle n'avait que 8 ans. Quand elle a eu finalement ses 15 ans, là, ça a duré plus de 5 ans. Elle est entrée en ménage, finalement. Puis le 21 août 1567, est née au foyer des Boisy, puisqu'ils ont changé de nom. Est né le premier de 13 enfants. Oui, le premier de 13 enfants, qui va être Saint-François de Sales. Peut-être un garçon, dit-on, comme son père. Il avait le même nom que son père. Il était fort, était petit, un peu délicat, mais il avait du caractère. Il a porté donc le même nom que son père, François. Le château de la famille, c'était le château de Torrance, T-H-O-R-E-N-S, avec 6 belles tours, 3 tourelles, non loin du lac d'Annecy, un beau château. Et le petit garçon, François de Sales, qui grandit donc dans ce château de Torrance, n'est pas une perfection. Non. Ils ont un peu de misère avec lui. François de Sales est un peu voleur. Et même passablement gourmand, imaginez. Au collège d'Annecy, où il entre à l'âge de 8 ans. Eh bien, François de Sales est un bon écolier, il aime le travail, il aime aussi ses petits compagnons. Et certains jours, t'est arrivé quelque chose. Un d'entre eux, suivant l'usage du temps, puis moi j'ai connu ça dans ma jeunesse, ça existait, il s'attire la peine du fouet. Bien oui, ça c'était comme ça, on nous frappait dans le creux de la main avec même un bout de bois, hein, ou avec une lanière de cuir. C'était strict encore dans les années 30 et 40. Dans ce temps-là, c'était le fouet. Alors le petit délinquant, comme on disait, bon, qu'est-ce qu'il avait fait de mal, je me le demande, avant d'être battu, il pleure, puis il crie de terreur, et là, François de Sales se lève, il enjambe son banc, c'était des bancs qu'on avait derrière des tables, il se précipite vers le maître, il le supplie de le battre à la place du coupable, il a du courage, il fait tant et si bien que le maître, impatienté, lui administre la correction. Et c'est comme ça que Saint-François se faisait des amis. À l'église Saint-Dominique, qui est proche du collège, François de Sales fait sa première communion, puis reçoit la confirmation en 1577. À 11 ans, sans qu'aucune pression ait été faite sur lui. Mais ce petit garçon se met à songer au sacerdoce comme mon petit-fils, Pascal. Et 4 ans plus tard, en 1582, François de Sales quitte la Savoie. La Savoie était séparée de la France, c'était comme un pays. Alors il est chaperonné par son précepteur. Chaperonné, ça veut dire qu'il est accompagné, surveillé, aidé, soutenu par un précepteur, c'est un prêtre. Il y avait beaucoup de prêtres à l'époque, et les grandes familles s'attachaient à un prêtre comme ça. Ils obtenaient les services d'un prêtre, qu'ils entretenaient, qu'ils payaient évidemment. Et ce prêtre s'appelait Monsieur Déage, D-E accent aigu, A-G-E, Déage. Alors ils gagnent tous les deux Paris, une ville intellectuelle, qui à cette époque se glorifie évidemment de son université, puis de ses 54 collèges. Et François va y parfaire ses études, des études de gentilhomme évidemment. Il doit y apprendre avec la rhétorique et la philosophie, eh bien l'escrime, l'équitation et la danse. Alors, s'il avait aveuglément suivi les désirs de son père, bien, il serait entré au collège de Navarre, qui est la maison des élégances, disait-on à l'époque. Oui, la maison des élégances. Ça me rappelle des magasins rue Sainte-Catherine qui s'appellent les Élégants. Mais grâce à l'intervention de sa mère, qui le comprend bien mieux, il est inscrit, en fait, au collège dit de Clermont, qui est tenu par les Jésuites. C'est à Paris. On y travaille ferme, mais on y vit bien durement dans ces collèges-là. Les jésuites sont exigeants, les bâtiments sont tristes, c'est la conception de l'époque, les pièces sont sombres. Il faut même en plein jour y travailler avec beaucoup de difficultés sur des feuillets de manuscrits à la lumière des chandelles. Qui plus sent plutôt mauvais. Le chauffage est un luxe rare, c'est rare qu'on chauffe. Il est strictement interdit aux élèves de quitter la cour, même par les froids intenses, tant que l'eau bénite ne gèle pas dans les bénitiers de la chapelle, imaginez. Mais c'est vrai, hein? Vous savez qu'à Saint-Benoît-du-Lac, au tout début, on ne chauffait pas, et c'est le supérieur de l'ordre qui venait de Solesmes, qui s'est rendu compte que l'eau gelait dans sa chambre et que le matin, il pouvait pas se laver, qu'il a permis aux moines de Saint-Benoît au tout début, là, dans les années 10, de chauffer ici au Québec. Que les choses ont changé. Hein. François de Sales, donc, il demeure 6 ans, il prend pension, selon la coutume de l'époque, dans une hôtellerie voisine. Il écrit « À Paris, j'ai appris plusieurs choses pour faire plaisir à mon père » et la théologie pour me faire plaisir à moi-même. C'est que François de Sales, toujours, par-delà toute cette culture humaine, qu'il aime bien, ça le charme, mais il entrevoit la vie sacerdotale, vers laquelle son cœur tend. Et en 1582, c'est l'époque, ça, où le fameux Baius, là, le janséniste, qui croit avoir compris la pensée de saint Augustin, soulève le grave problème. Le grave problème de la prédestination. Je vais vous expliquer. Jansénius, qui a donné son nom au jansénisme, n'a pas encore donné vraiment toute sa doctrine, et puis n'a pas donné non plus à la doctrine de son maître Baius tout ce qu'il voulait écrire. Mais le problème est soulevé, il est à l'ordre du jour. On le débat à l'université de la Sorbonne, on le discute au cours de théologie, et pour François de Sales, jeune étudiant, ces discussions ne sont pas une joute oratoire et la question de l'angoisse, parce qu'elle est vitale. Il écrit « Je ne connais au monde qu'une affaire qui m'intéresse, c'est le salut de mon âme », c'est-à-dire la possession de Dieu pendant toute l'éternité. Or, c'est là que le problème de la prédestination arrive. Hein? Je me souviens, on en discutait même quand j'étais jeune. Si nous ne sommes pas libres, qu'est-ce qui arrive? Si Dieu sauve, selon son bon gré, si il donne quelqu'un qui, selon ce qui lui plaît, alors est-ce qu'il faut renoncer à l'aimer, ce Dieu? Et à l'aimer pour toute l'éternité? Alors François de Sales raisonne, puis il se débat dans ce dilemme. Il dit à un moment donné, « Mon Dieu, s'il fallait vous haïr en enfer, bien, laissez-moi du moins la consolation de vous aimer en cette pauvre vie. » Et puis, un jour, au pied de Notre-Dame, la lumière se fait. Il entend, au fond de son cœur, cette voix, « Je ne suis pas celui qui aime à damner, mais celui qui sauve. » Alors, c'est tout, la paix est revenue, et la certitude de l'amour de Dieu. Sans qu'il s'en rende compte encore, François de Sales, à ce moment-là, tient le grand fil directeur de toute sa doctrine personnelle, une doctrine qui va renverser la pensée de l'époque, son expérience propre, celle qu'il vient de faire après la tentation puis le trouble, ça va rejaillir dans chacune des pages du fameux traité de l'amour de Dieu. Ça va jaillir en abandon total, en confiance absolue, puis en paix inaltérable. Alors à peine de retour donc au château familial de Torrance, François de Sales, sur le désir de son père, va prendre le chemin de Padoue. Oui, de Padoue, dans le nord de l'Italie, là, près de Venise, au nord de l'Adriatique, là, où il doit poursuivre ses études de droit. Le milieu étudiant, c'est moins que recommandable. François y souffre. Or, à force de se tenir sur ses gardes, toujours par crainte de faillir, il ne veut pas succomber. Il mortifie son corps durement, il finit par tomber malade. Assez dangereusement, on le croit perdu. Alors son précepteur, le monsieur Déage, ce prêtre qui l'accompagne et le chaperonne, il est épouvanté quand François de Sales lui dit « Monsieur, je désire une chose, tant seulement, que quand je serai expiré, vous remettiez ce corps au médecin pour en faire l'anatomie. Ce me sera un soulagement de savoir qu'au moins je servirai à quelque chose au public étant mort, puisque je n'ai servi de rien en ma vie. » Imaginez. Alors heureusement, François de Sales se rétablit, et son séjour à Padoue s'achève dans un triomphe, et devant 48 docteurs, cet étudiant en droit soutient sa thèse, et l'assemblée tout entière l'acclame, enthousiasme, et revenu près des siens, bien François n'hésite plus à affirmer la décision qu'il a prise, les titres, la fortune, les charges d'avocat au barreau de Chambéry, dans le sud de la France, là, il refuse tout ça. Il refuse également la main de la fille unique, dit-on, et très belle du seigneur de Végy. Il dit, « Mon père, j'ai reconnu, mon humeur est à être portée à l'Église, et j'ai promis ma chasteté à Paris. Je vous supplie, vous conjure de permettre cela. Après quoi, je ne vous demanderai plus rien. » Et le 18 décembre 1593, François de Sales reçoit à Annecy le sacrement de l'ordre. Il est donc prêtre à 26 ans. Alors, une fois prêtre, François de Sales veut l'être totalement. Écoutez bien ça. Si vous songez à devenir prêtre, écoutez ça. Il prêche et il confesse. Il prêche pour convertir et non pour s'attirer des louanges. C'est très important ce qui suit. Il prêche avec son cœur, non pas avec son esprit. Il parle aux âmes, il parle pas aux érudits. C'était rare à l'époque. C'était une façon de faire qu'on ne voyait à peu près jamais. Et ça, c'est pas du coup du goût de son père qui a un peu de prétention, monsieur de Boisy. Alors, plus lui importe, François de Sales ne recherche pas les marques d'appréciation, même pas de son père. Sa science, car c'est un homme instruit, tout simplement, il la met au service de l'amour. Oui, de l'amour. Les gens, je vous le répète, qui pensent que c'est une découverte récente que Dieu est amour, pas du tout. C'est pas nouveau. Le confessionnal ne lui fait pas peur. Il dit d'ailleurs d'une façon assez sympathique, « Ce n'est pas une petite affaire que de consoler une âme que Jésus-Christ a rachetée de son sang. » Alors son cœur d'apôtre souffre surtout de voir si près de lui tant de chrétiens qui sont séduits personnellement ou entraînés par toutes sortes de remous politiques et qui tombent, à cause de ces remous politiques, dans l'erreur du protestantisme calviniste. En 1594, il décide de partir en mission auprès des protestants dans le Chablais, et rien ne le retiendra, ni les objurgations de son père qui s'épouvantent, ni les dangers qui sont réels, hein, et auxquels il sait bien qu'il s'expose. D'ailleurs, un jour, sur une route, c'est un fanatique, malheureusement, qui l'attend et le vise. Oui, une autre fois, il est réduit à passer la nuit caché au fond d'un four où l'on cuit le pain à l'extérieur, comme il y en a ici, dans le bas du fleuve. Hein. Dans la ville de Thonon, où il y a beaucoup de protestants, alors on l'injurie, mais qu'importe. Pendant 2 ans, il travaille sans relâche. Il cherche de nouvelles formules, si ses efforts semblent infructueux. Il veut la réunification de tous les chrétiens. Il va même jusqu'à s'installer à Thonon, dans cet endroit, quitte à s'en aller chaque jour dire sa messe en un lieu plus sûr. Un matin, où il doit, selon son habitude, traverser une rivière, la Drance, il s'aperçoit que le pont en a été coupé, et le froid est intense. Et au creux de ce torrent, il y a des glaçons qui flottent. Pour le traverser, il y a une poutre, un long bout de bois qui a été jeté en travers. Elle est couverte de neige fraîche, mais c'est glissant. Et sans une minute d'hésitation, François la saisit de ses mains, raidie et gelée. Il s'y hisse à califourchon, il s'y agrippe, s'y cramponne, et il atteint la rive de l'autre côté. Alors, quel courage, hein? Et on le voit à Genève, qui est une ville en Suisse devenue protestante, et dans les villages qu'on appelle les villages huguenots, ou protestants si vous voulez, les calvinistes obtiennent que leur ministre, M. Viret, ils obtiennent de lui qu'il provoque ce papiste qu'on rencontre partout. Alors M. Viret s'engage, c'est leur ministre, leur pasteur, hein? Puis, le jour de la discussion venue, il se récuse. Il n'ose pas trop discuter avec François de Sales. Alors un autre le remplace et accepte de rencontrer François de Sales dans un débat. Mais il doit s'avouer vaincu. Les conversions, les abjurations de certains protestants qui reviennent au catholicisme se multiplient. François de Sales fait réparer à Thonon même l'église catholique. Et finalement, il y célèbre avec plaisir la messe. Et ce calme, cette maîtrise de soi, cette insouciance des dangers, ce don qu'il avait de toute sa personne à tous ceux qui lui demandent un service, mais c'est cela qui attire secrètement les cœurs vers ce missionnaire infatigable, beaucoup plus que sa doctrine encore. Hein? C'est sa sainteté qui attire. Et en juillet 1597, l'évêque de Genève, Monseigneur de Granier, l'obtient comme coadjuteur, évêque coadjuteur. Et loin de rechercher les honneurs, François de Sales se donne sans compter pour le bien du diocèse. Clément VIII, désireux de connaître par lui-même la valeur de François de Sales, le fait venir à Rome. Et un peu plus tard, François de Sales est envoyé à Paris pour y régler une question politique où la question religieuse se trouve mêlée. Et comme il arrivait souvent à l'époque, il est invité à prêcher le carême à la cour. Il opère des conversions. Toute élite religieuse de la capitale de France cherche à prendre contact avec lui. Et quelques années plus tard, lorsqu'il y reviendra, il va rencontrer M. Vincent, Saint-Vincent de Paul. Le roi Henri IV, en personne, voudrait le retenir en France, lui qui vit en Savoie et à Genève. Il lui offre de gros appointements. des bénéfices très riches. Et François sourit. Il lui dit, « Sire, je prie votre majesté de m'excuser. Je suis marié. J'ai épousé une pauvre femme. Je ne puis la quitter pour une plus riche. » Sa pauvre femme, c'est évidemment son diocèse. Alors, plus que jamais, François de Sales va devenir l'époux de cette pauvre femme. Parce que la mort de Monseigneur de Granier, l'évêque de Genève, survient juste à ce moment-là. Alors, comme coadjuteur, François de Sales, normalement, accède au siège épiscopal de Genève. Il est sacré le 8 décembre de l'an de grâce 1602. Alors, François de Sales fait officiellement son entrée à Annecy, puisque Genève toujours ferme ses portes aux catholiques. Il va à Annecy. C'est là qu'il va fonder, avec Jeanne de Chantal, les premières visitandines. Premier monastère de la Visitation. Alors, il fait son entrée à Annecy le 14 décembre. Il a 35 ans. Dans sa demeure épiscopale, il rejette tout ce qui sent le faste, l'orgueil. Il y veut mener une vie très sainte. Plus que jamais, il demeure à la disposition de tous, de n'importe qui. C'est pas son nouveau titre d'évêque de Genève qui va l'éloigner des petites gens ou des tâches les plus humbles. Certainement pas. En cela, il faut l'avouer, il tranche sur la majorité des évêques de son époque qui, malheureusement, sont bien prétentieux. Malgré sa nouvelle dignité, il assume en personne les catéchistes du dimanche. Il comprend l'importance aussi de la formation du clergé. Il voudrait que dans son diocèse, déjà, il y ait des grands séminaires pour répondre aux désirs exprimés par le Concile de Trente. Et alors, il veut que son clergé soit saint. Oui, que les prêtres deviennent des saints. Mais aussi qu'ils soient instruits, dit-il. Et il déclare, je trouve ça très bien, si Genève aussi, le protestantisme, si vous voulez, et c'est ce qu'il dit, a fait des ravages si terribles parmi nous, c'est que nous étions oisifs, on faisait rien, quoi. Nous bornant à notre bréviaire, sans penser à nous rendre plus savants. Et Genève a profité de notre négligence pour faire croire que jusqu'alors on n'avait pas compris le sens de la Sainte Écriture. Or, être évêque de Genève, c'était pas très facile. Si son diocèse est déchiré en deux à cause du protestantisme, mais c'est pour François de Sales une raison de plus de parcourir en tout sens le territoire entier confié à ses soins. Il aime tout son troupeau. Ceux qui lui sont fidèles et les autres davantage encore peut-être, comme le Jésus qui court après la brebis qui s'égare. Il souffre de ne pouvoir plus pénétrer dans Genève à cause des protestants, qui sont pour lui des fils séparés. Un jour pourtant, il passe par cette ville. Une mission qui ne souffre pas de retard l'appelle à Gex. Mais le Rhône, le fleuve qu'il doit traverser, grossit par les fuites torrentielles, est sorti de son lit. Alors il faut trouver une autre route et l'évêque a décidé de passer par Genève. Il célèbre d'abord la messe dans une église voisine du fleuve, puis il y a 12 hommes qui l'accompagnent et il annonce tranquillement, nos citoyens de Genève ne veulent pas entendre la messe. Mais il réussit finalement à passer en se faisant présenter simplement comme l'évêque du diocèse et le gardien ne comprend pas ce que ça veut dire. Dans le diocèse de Monsieur de Genève, comme on dit, sur le territoire catholique, comme partout en ce temps-là, la vie religieuse dégénère dans bien des monastères et François s'attaque à la tâche de rendre aux moines et aux moniales le sens de leur vocation. Alors là, il va réformer avec bien de la peine une abbaye de bénédictines et puis... C'est pas tout encore. François va devenir fondateur d'un nouvel institut qu'on appelle la Visitation Sainte-Marie. Nous avons vu dans la première demi-heure celui que nous célébrons le 24 janvier, François de Sales, évêque de Genève, l'un des grands saints de l'Église parce qu'il était tellement équilibré et tellement bon, en dépit d'une écriture qui laissait croire et voir qu'il avait beaucoup d'impatience et d'esprit de révolte. Mais il a su maîtriser tout ça d'une façon sublime. Il est devenu cet homme apprécié de tout le monde et apprécié de Sainte-Jeanne de Chantal. En un an avant qu'il devienne évêque de Genève, en automne 1601, il y a deux gentilshommes qui avaient leurs arquebuses avec eux. Ils se sont mis en chemin pour faire une partie de chasse en Bourgogne. Et soudain, vous allez voir, par mégarde, il y a un coup qui part et l'un des deux gentilshommes s'effondre sur le sol. C'est le mari de Sainte-Jeanne de Chantal. Il est mortellement atteint. Il appelle sa femme. Jeanne de Chantal accourt. Elle se jette à ses pieds. Elle est folle de douleur. Est-ce que Dieu vraiment va séparer ainsi brutalement pour jamais ceux qu'il avait unis, comme si c'était Dieu qui avait tué son mari? Voyons, voyons. Jamais de la vie, c'était un accident. Calme, en dépit de la souffrance. Cet homme qui se meurt, c'est le baron de Rabutin-Chantal. Il tente d'apaiser sa femme. Il déclare une phrase qu'on verrait dans les pièces de Racine, mais il paraît que c'est authentique, ça a été transcrit sur le champ. Voilà ce que ce grand chrétien déclare, à la façon de cette époque. Les ordres du ciel sont justes. Il faut les respecter, les aimer et mourir. Pour la baronne, qui n'a que 29 ans, c'est un désespoir. Mais lui, il veut qu'à l'église, on affiche le texte du pardon public que du fond de son cœur, il accorde à son ami qui est malheureux, qui souffre terriblement et qui, par maladresse, l'a tué. Elle se doit, elle, veuve, pour ses 4 petits-enfants qui restent orphelins. L'aîné n'a pas 7 ans, il s'appelle Celse Bénigne. Comme Bossuet Bénigne. Elle a 3 filles aussi, Marie-Aimée, Françoise et Charlotte. À présent, la souffrance entre par toutes les portes. C'est pas seulement la perte du mari qu'elle aimait extrêmement, c'est l'exigence égoïste aussi de Monsieur de Rabutin, son beau-père, qui réclame auprès de lui la présence de Jeanne de Chantal dans son château de Montelon, aux environs d'Autun. Or, dans ce château, il y a une servante qui est très revêche. Elle règne en despote avec ses 5 enfants, elle. Et c'est elle qui fait la loi. Et elle veut, puis elle obtient, qu'entre ses propres 5 enfants et les 4 de Jeanne-Françoise Frémillot de Chantal, il n'y a aucune différence. Aux nouveaux arrivants, jalouse, ben elle fait la vie dure. Elle fait la vie dure à Jeanne de Chantal, puis à ses 4 enfants. Alors, c'est une baronne, elle. C'est une femme qui était à l'aise. C'est une rude école de patience et de maîtrise de soi. Dieu s'empare d'elle petit à petit. Au printemps de l'année 1604, on attend à Dijon l'arrivée de François de Sales, Monsieur de Genève, comme on l'appelle, Monseigneur François de Sales. Il doit y prêcher le carême. Alors, Monsieur Frémillot prend prétexte peut-être de ce carême pour faire venir un moment près de lui la baronne de Chantal. Elle accourt. Le vendredi qui suit le mercredi des cendres, elle est au sermon de Monseigneur François de Sales, tout juste en face de la chaire. Elle est vêtue de noir, elle porte le deuil. Elle a le visage grave, un maintien modeste, dit le vieux texte. Et soudain, secrètement, l'un et l'autre ont frémi intérieurement. Dieu s'empare d'eux. Cet homme à barbe blonde, en soutane, en rocher, et Jeanne-Françoise Frémillot de Chantal l'a vu déjà en son esprit. Elle se dit, mais je l'ai vu déjà dans un rêve. Et lui aussi, il l'a vu d'une manière semblable. Et sans être rencontrés jamais dans le temps, auparavant, ils se connaissent. C'est une grâce toute spéciale de Dieu. Alors ils sont émus profondément, mais sans rien en laisser paraître. Alors l'évêque de Genève et la baronne de Chantal quittent l'église après le sermon. Ils souhaitent se rencontrer. La rencontre est facile. Car André Frémillot, le frère de Jeanne-Françoise, est archevêque nommé. Donc, il est simple clerc, il n'est pas évêque, il n'est pas ordonné encore. Il est archevêque nommé de Bourges. C'est des privilèges, ça, c'est un bénéfice commendataire, comme on dit, dont sa famille est redevable à la générosité du roi Henri IV, qui s'est converti du protestantisme au catholicisme. Quelle horreur que ces bénéfices qu'on accorde et tout ça pour des raisons d'argent. C'est scandaleux, au fond. Mais François de Sales va faire d'une pierre 2 coups. Il va faire de la baronne une fondatrice d'ordre, puis de son frère un évêque conscient de ce qu'entraîne son titre d'évêque. Ordonné prêtre à la fin de ce carême, André Frémiot célèbre le jeudi saint sa première messe, assisté de M. de Genève, Mgr François de Sales. Madame de Chantal, elle sera religieuse. C'est une affaire entendue, mais pour l'instant, c'est une femme du monde. Elle se contente alors de supprimer, bon, quelques francs de freluche superflus. Elle est mise avec soin, pas vraiment avec recherche. Elle est aimable et souriante, et toujours prête à répondre à ses obligations familiales et sociales. Mais voilà en vérité le grand secret, la grande innovation de Saint-François de Sales. C'est pour ça que je vous ai parlé longuement de Saint-François de Sales. C'est l'essence même de sa doctrine spirituelle. Nous, aujourd'hui, à la fin du XXe siècle, si nous savions passer outre au style un peu démodé de Saint-François de Sales, si on cherchait loyalement, sous des mots et des phrases qui ne sont plus de notre époque, la substantielle moelle, comme on dit, le vrai sens et la vraie richesse de l'introduction à la vie dévote. Avez-vous déjà lu ça, l'introduction à la vie dévote, ou du traité de l'amour de Dieu de Saint-François de Sales? Bien, nous serions étonnés, nous, d'y trouver justement une conception moderne de la vie spirituelle, une conception exigeante et profonde, mais accessible à n'importe qui. Parce que depuis le Moyen-Âge, une sorte de coupure s'était établie entre la vie du cloître et la vie du monde, et pour les moines, c'est la vie intérieure. Pour les autres dans le monde, la seule fidélité au devoir. On se contentait de peu, puis c'est encore un peu la même chose aujourd'hui pour bien du monde, la majorité des gens. C'est triste, quelle joie on perd, quel bonheur on perd, ah mon Dieu. C'est comme si on nous offrait des millions, puis on se dit, bah non, je préfère quelques sous. Vous avez un billet de loto gagnant, puis vous le jetez au panier, quelle horreur. Peut-être un préjugé courant à l'époque. La vie de raison, c'est-à-dire d'intimité avec Dieu, la vie chrétienne authentique, prenant au pied de la lettre, comme elle doit l'être, la parole du Christ, le « Soyez parfait comme votre Père céleste est parfait », mais ça semblait, depuis longtemps, réservé exclusivement à ceux qui étaient séparés du monde par des grilles ou des murs. On concevait même pas, en ce début du XVIIe siècle, une vie religieuse non cloîtrée. Souvenez-vous de Sainte Marguerite Bourgeois avec ses sœurs. Hein? Alors, pouvoir ça sanctionner par les coutumes mêmes de l'Église, François de Sales va se heurter quand il va s'agir d'établir l'ordre de la visitation, sa doctrine spirituelle. Vraiment, là, ça va profondément bouleverser la conception de la perfection chrétienne puis de la sainteté. Alors là, François de Sales enfonce la porte qui réservait cette vie au petit nombre. Et dans quelles conditions qu'il soit, quelque profession qu'il exerce, marié ou non marié, riche ou pauvre, en bonne santé ou malade, il dit que tout baptisé doit tendre à quoi? À l'union intime avec Dieu. À l'amour de Dieu. À répondre à cet amour aussi. Pas du tout à un amour fade et mièvre. Il va se contenter, dit-il, de dévotionnettes à l'eau de rose. Il dit dans le traité de l'amour de Dieu, « L'esprit de Dieu est joyeux et vigoureux, et non tendre et languissant. » On l'oublie trop, rebuté que l'on est par le style un peu désuet de ses livres. La doctrine de saint François de Sales est marquée au coin de la grandeur de son époque, c'est-à-dire du début du grand siècle. Elle est élevée, elle est exigeante, elle n'admet pas de demi-mesure. Elle est profondément théologique. Elle est basée sur le principe absolu de toute sainteté authentique, la conformité de notre volonté à la volonté de Dieu. C'est ce dont je vous ai parlé pendant une heure lors de ma 350e émission le 2 décembre. Or, entre François de Sales et Madame de Chantal, humainement et spirituellement, les liens se resserrent. La plus jeune sœur de l'évêque est d'ailleurs partie en Bourgogne pour y terminer son éducation auprès de Jeanne-Françoise Chantal, pour jouer avec sa fille Marie-Aimée. Jeanne de Sales meurt en 1607, à 15 ans, mais en 1609, Marie-Aimée de Chantal, elle, qui a 12 ans, va épouser Bernard, qui est le frère de M. de Genève, de François de Sales. Alors les liens de famille se resserrent et l'affection des Frémiot pour François de Sales, ça supprime pas l'opposition farouche, que la baronne de Chantal rencontre dans sa propre famille lorsqu'elle parle de vie religieuse. Hein. Il se figure peut-être qu'elle agit à la légère, et pour contenter son désir de solitude, bon, elle fait bon marché de ses devoirs de mère, parce qu'elle a 4 enfants. C'est bien mal la connaître. Mais on doit l'avouer, son cas est exceptionnel. Hein? Il faut qu'une certitude absolue lui soit donnée intérieurement. Et c'est François de Sales qui lui donne cette certitude. Dès lors, la future Sainte-Jeanne de Chantal n'hésite plus. Elle ne s'arrête ni devant les larmes des siens, ni devant le déchirement qu'elle leur cause. Elle ne s'arrête même pas lorsque son aîné, le Celse Bénigne, dans son désespoir, oubliez pas, il n'a que 14 ans, va se précipiter sur le seuil de la porte qu'elle doit franchir. Ah. Il lui dit, « Au moins, vous avez foulé votre enfant aux pieds. » Elle passe, mais elle peut contenir ses sanglots, puis elle dit, « Que voulez-vous, mon fils? Je suis mère. Je suis mère, mais c'est un scandale! Puisqu'elle est mère, pourquoi abandonner ses enfants? Des enfants si jeunes encore? » Non, elle ne les abandonne pas. Il faudrait citer ici tout au long un article d'Emmanuel de Jeux dans la revue Études du 5 mars 1927. C'est intitulé « Sainte-Jeanne de Chantal et ses enfants ». On voit que les enfants ont été reconnaissants plus tard pour le geste de leur mère, parce qu'à partir de ce geste, ils sont devenus plus solides, un peu comme le fils de Marie de l'Incarnation qui est abandonné vers l'âge de 11-12 ans, Claude Martin, qui est devenu abbé bénédictin. Celse Bénigne, lui, le fils aîné qui rêve d'indépendance, brûle de connaître la cour. Il y connaît des aventures galantes, à un moment donné même des duels, puis il épouse en 1623 Marie de Coulanges. Il se signale à l'île de Ré en 1627 dans une petite guerre contre les protestants, puis il est blessé de 27 coups de pique dont il meurt 2 jours après. Puis de son union avec Marie de Coulanges est née Marie de Rabutin qui... Savez-vous, va épouser le marquis de Sévigné, puis elle va devenir la marquise de Sévigné. Voyez-vous, c'est étrange, hein? Alors, si l'on veut savoir quel est le témoignage de son fils, il dit « J'admire la conduite de Dieu sur nous ». C'est son fils qui vient de mourir, là, qui a dit ça. « Quand vous seriez demeuré au monde selon nos souhaits, que vous auriez pris tous les soins de nous avancer, que votre amour maternel et votre non-pareille prudence vous auraient su faire inventer, eh bien, vous n'auriez pas pensé à me loger autrement que je suis. Il était content de tout ce qui était arrivé, et les enfants, les autres enfants de même. » Nous sommes finalement dans une jolie petite ville, à Annecy. Ça vaut la peine d'aller à Annecy, c'est superbe. Dans le sud de la France, au pied des Alpes. Et là, nous sommes dans une pauvre chapelle, et le 6 juin 1610, les 3 premières visitandines jurent... obéissance à Madame de Chantal. Le nouvel institut commence pauvrement. Les 3 premières s'appellent Jeanne Coste, Jacqueline Favre et Charlotte de Bréchard. En élaborant avec prudence les règles de la visitation, il va lentement, on ne peut pas enjamber sur la divine providence, Monseigneur François de Sales. Eh bien, il aboutit à une conception nouvelle de la vie religieuse. Il l'a vue accessible aux natures faibles. On accepte, savez-vous, dans cet ordre, des dames assez âgées, des veuves. Ben oui, elle était veuve, la fondatrice. Alors, on prend des veuves, même de 50, 55 ans, paraît-il. François de Sales supprime la pucelle maudite du bréviaire, qui a été repris depuis. Parce que c'était pas fort long, c'était en latin, puis ça risquait d'être absolument intelligible pour des femmes d'instruction moyenne. Il ne leur laisse que le petit office dit de la Sainte Vierge qui existait autrefois. Il existait dans mon jeune temps. Il remplace les mortifications corporelles par quoi? Écoutez bien ça, par la mortification continuelle de la volonté propre. C'est-à-dire, se contrôler, ne pas être susceptible, être souriant, généreux, attentif. Avec une rare prudence, François de Sales va dire plus tard à la trop rigoureuse réformatrice de Port-Royal, le monastère janséniste, manger peu, travailler beaucoup, avoir beaucoup de tracas d'esprit, puis refuser de dormir au corps, c'est vouloir tirer beaucoup du service d'un cheval qui était flanqué. Il n'y va pas de main morte. Hein. Alors, à l'oraison, au travail manuel, il ajoute, c'est une chose inouïe pour l'époque, la visite des malades. Pourquoi? Parce que les sœurs ne sortaient jamais de leur monastère, elles étaient toutes cloîtrées. C'est pour ça qu'on appelle ces sœurs-là les filles de la visitation. Visitation, bien oui. En 1611, l'année d'essai étant écoulée, c'est la première prise d'habit. Mais moins de 5 ans plus tard, l'archevêque de Lyon, qu'avait d'abord approuvé la nouvelle congrégation, il regrettait une chose. Il n'aimait pas la sortie des sœurs hors de leur clôture pour visiter les malades. Rien de pareil alors ne se voyait en France. Alors il prend peur en face de cette innovation. Et François Sales défend la cause de la visitation telle qu'il l'a voulu. Mais si fortes sont les objections auxquelles sans cesse il se heurte de la part de cet évêque de Lyon qui est primat des Gaules, ne l'oublions pas, un peu comme l'évêque de Québec ici est primat du Canada, alors il croit bon finalement de céder. Comme on dit vulgairement aujourd'hui, il l'a pas pris. Il l'a pas pris. Il déclare « Je ne sais pourquoi chacun me dit fondateur, j'ai défait ce que je voulais faire. » Et ainsi donc, les filles de la Visitation Sainte-Marie, c'est comme ça qu'on appelle tous ces monastères, hein, la Visitation Sainte-Marie, seront de pures contemplatives, puisqu'on leur refuse le droit de se donner au dehors, aux œuvres de miséricorde. Alors elles vont assumer seulement, suivant le besoin des époques et la nécessité d'assurer leur subsistance, l'éducation des petites filles. Elles auront des collèges, des couvents pour les petites filles, mais qui vont vivre à l'intérieur derrière les grilles et qui vont partager un peu la vie des religieuses. Et parfois, dans quelques monastères, elles seront habillées comme les religieuses, à la manière des petits oblats dans les monastères du Moyen-Âge et même comme des petits oblats qu'on avait à Saint-Benoît-du-Lac dans les années 40 pendant à peine 2-3 ans. Ça n'a pas été long. C'était au temps de Don Mercure, qui était prieur. Ce n'était pas au vrai ce qu'avait souhaité François de Sales. Hein. Son idée primitive là, va faire son chemin. Et plus tard, qui va le faire? C'est Saint Vincent de Paul, que Saint François de Sales va nommer en 1619 directeur du premier monastère de la Visitation de Paris, au Faubourg Saint-Antoine. C'est Saint Vincent de Paul qui va reprendre l'idée quand il va fonder les Filles de la Charité, dont la vie sera premièrement vouée à quoi? Bien aux soins justement des malades et des pauvres à domicile. De toute façon, peu importe, la forme de vie de la visitation va être l'empreinte, va recevoir l'empreinte du fondateur. Ça va demeurer très profond dans les monastères qui, peu à peu, se fondent d'un bout à l'autre de la France, puis dans le monde entier aujourd'hui. Eh bien, la doctrine de François de Sales trouve son terrain d'élection. Et cette doctrine, je vous le rappelle, n'est pas faite pour les seules religieuses. Avant l'existence du premier monastère, cette doctrine a déjà été vécue par les femmes du monde que François de Sales veut conduire jusqu'à la perfection de l'amour. C'était extraordinaire. Il a écrit des lettres à Madame de Charmoisy, une femme qui s'ennuyait en Savoie et qui rêvait des plaisirs de la cour. Il lui écrit toutes sortes de lettres et il remanie ces lettres-là, puis ça fait l'introduction à la vie dévote qui paraît en Lyon en 1608. Et puis finalement, avec tout ce qu'il va dire à ses filles de la Visitation, il va écrire le traité de l'amour de Dieu, publié en 1616. Alors, on parle de grands mariages dans la très haute société. À Paris, une famille royale, François de Sales est obligé d'aller séjourner à Paris presque une année entière. Il y prêche 365 fois. Et les belles auditrices qui ont des perruques bouclées l'assaille parfois la sortie de l'église. Et c'est à laquelle d'entre elles qui va poser la première sa question. Et Saint François de Sales est malicieux. Il dit, mon Dieu, que les femmes sont donc coquettes. Même les pieux dévotes. Et il déclare à ses femmes, mesdames, à laquelle vous plaît-il que je réponde la première puisque vous parlez tout ensemble? Alors il rencontre M. Vincent de Paul, il rencontre M. Bourdoise, il s'entretient avec la jeune abbesse de Port-Royal, il prêche un peu partout. Il assiste même le cardinal de la Rochefoucauld à la cérémonie du mariage, là. C'est le mariage du prince de Piémont avec Christine de France, la fille du roi. Et puis, il suit le roi de France à Tours à un moment donné, il rencontre Richelieu. Mais c'est pas le même genre d'évêque, hein. En septembre ou octobre 1619, M. de Genève rentre dans son diocèse. Il est fatigué, il est malade. Puis le 28 décembre, il doit s'avouer vaincu physiquement. Les traitements médicaux de l'époque l'achèvent. On le tue avec toutes sortes de traitements invraisemblables. Et le soir même de ce jour, 28 décembre, l'évêque de Genève rend son âme à Dieu. Mais il est fêté le 24 janvier. Mais malgré tout, les monastères de la Visitation ne vont pas tarder à se multiplier. Ils se répandent partout. Et déjà, quand il meurt, Jeanne de Chantal conduit la famille religieuse qui compte déjà 13 monastères. Elle veut que ces religieuses soient à la fois humbles, mais assez libres. C'est une vie religieuse intelligente. Elle dictait à ses secrétaires, écrivait elle-même d'une grande écriture qui remplissait toutes les marges, des choses merveilleuses. Ses lettres nous révèlent une maîtresse spirituelle. C'est vraiment une directrice d'âme. Elle a une influence qui se répand partout chez les laïcs. Et puis, le 11 mai 1641, elle se démet de sa charge de supérieure au premier monastère d'Annecy, avec l'intention de ne plus jamais la reprendre. Elle a 69 ans. Elle est accablée d'épreuves et de deuil. Elle aspire au repos. Mais il y a la duchesse de Montmorency qui l'appelle dans un autre monastère de visitation où elle veut prendre le voile. C'est les grandes dames qui se convertissent et qui rentrent à la visitation. Alors cette infatigable voyageuse qu'est Jeanne de Chantal se remet en route. Il y a Anne d'Autriche qui l'a fait venir aussi à Saint-Germain-en-Laye près de Paris. Puis finalement, bien de Paris, elle gagne Moulins où en arrivant, elle doit s'aliter le 8 décembre, puis elle meurt paisiblement le 13 décembre, après avoir dicté ses dernières recommandations à ses religieuses. Elle laissait l'ordre solidement établi avec quoi? 87 monastères. Et elle a été canonisée en 1767. Cette grande amitié spirituelle a suscité dans l'Église des transformations magnifiques. Oui, entre un homme saint et une femme sainte, de grandes choses peuvent rayonner, s'établir et transformer le monde. N'oubliez pas, il y a 3 monastères de la Visitation. Ici, l'un à Ottawa, un à La Pocatière et un à Lévis.